Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 12 mars 2026. Et comme l'actu est chargée, on va cette fois-ci pas se faire l'économie d'un petit point sur la situation autour de l'Iran. L'Iran qui a visé des infrastructures pétrolières dans le Golfe avec les cours du pétrole qui flambent. Ce jeudi, donc, une nouvelle vague d'attaques contre des infrastructures pétrolières des pays du Golfe a été lancée après avoir frappé deux tankers ce matin, ce qui a suscité une nouvelle flambée des cours du pétrole malgré la mobilisation des réserves stratégiques. Voilà, toutes ces dépêches sont fournies par l'AFP. Le conflit a donc pris une échelle régionale et menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, puisque le trafic est paralysé dans le détroit d'Ormuz, qui est un point de passage stratégique. Côté prix du pétrole, on a repassé ce matin la barre des 100$, malgré une intervention sans précédent des grandes puissances sur le marché, hein, puisque les 32 pays membres de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dont fait partie les États-Unis, ont décidé hier d'un déblocage record de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques pour apaiser les inquiétudes sur l'approvisionnement. Au 13e jour du conflit, cependant, les dégâts dans les infrastructures pétrolières s'étendent. Bahreïn a dénoncé une attaque iranienne contre des réservoirs en appelant les habitants à rester chez eux en raison des fumées provoquées par l'installation en feu. À Oman, des réservoirs de carburant dans le port de Salalah étaient eux aussi en feu la veille après une attaque de drones. On a eu des vidéos d'ailleurs relayées par l'AFP, tandis que l'Arabie Saoudite rapporte une nouvelle attaque de drones contre le champ pétrolier de Shaïba dans l'est du pays, qui avait déjà été visé à plusieurs reprises ces derniers jours. Donc l'attaque d'aujourd'hui contre deux pétroliers dans le Golfe au large de l'Irak, pas vraiment revendiquée mais quand même assez signée, elle a fait au moins un mort qui travaillait sur ce bateau, tandis que les sauveteurs recherchent plusieurs disparus. La télévision étatique irakienne a diffusé des images d'un navire en mer d'où s'élevaient d'impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée noire. Côté États-Unis, Donald Trump promettait qu'une grande sécurité régnerait bientôt dans ce goulot d'étranglement, hein, le détroit d'Ormuz, qui voit normalement passer un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Trump a aussi assuré que 28 navires poseurs de mines avaient été frappés. Parce qu'en effet, une crainte majeure de la communauté internationale était de voir ce détroit miné. En tout cas, courte, on ne pense pas qu'elle le sera, cette guerre. Et la première semaine de guerre a coûté aux États-Unis plus de 11 milliards de dollars. Une partie de l'opinion, d'ailleurs, proche de Trump, eh bien, ne le suit pas dans cette guerre qui a pris de surprise pas mal d'observateurs. En face, côté iranien, les gardiens de la révolution, eux, se disent prêts à une longue campagne pour forcer Washington à la retraite en pilonnant les intérêts occidentaux. Ali Fadavi, qui est représentant de cette armée idéologique, a brandi la menace d'une guerre d'usure qui serait à même de détruire l'économie états-unienne entière et l'économie mondiale. L'armée iranienne a dit hier vouloir désormais frapper les centres économiques et les banques dans le Golfe, tandis que l'agence iranienne Tasnim a cité des géants états-uniens de la tech comme futures cibles possibles de Téhéran. Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle ou encore Nvidia. Et d'ailleurs, le FBI alerte lui peut-être de risques de danger d'attaque sur la côte ouest des États-Unis. Les ports, en tout cas dans la région, pourraient devenir une cible dans ce conflit, hein, puisque l'armée états-unienne a appelé hier les civils iraniens à s'éloigner de tous les ports de la région du détroit d'Ormuz, car s'ils sont utilisés à des fins militaires, ils perdraient leur statut protégé. L'armée iranienne, elle a répliqué qu'en cas d'attaque, tous les ports et quais de la région deviendraient des cibles légitimes. Quant à Israël, elle poursuit ses attaques au Liban en visant le Hezbollah pro-iranien. Des lourdes frappes ont touché mercredi soir le sud de Beyrouth. Les autorités libanaises, qui ont recensé plus de 800 000 déplacés, ont fait état ce matin d'au moins 7 morts de plus dans la capitale. L'armée israélienne, elle a lancé une nouvelle vague de frappes à grande échelle sur Téhéran, après que l'Iran a indiqué avoir mené une opération conjointe avec le Hezbollah contre une cinquantaine de cibles sur le territoire israélien. Cette attaque a été décrite comme un feu continu pendant 5 heures, surtout à base de missiles et de drones. Le Hezbollah, lui, dit avoir tiré des missiles vers une base de renseignement militaire israélien. Le président Macron a appelé sur X Israël à renoncer à une offensive terrestre au Liban. Et enfin, toujours dans cette suite de brèves, on lit que à Téhéran, la vie s'organise malgré les bombardements et les fumées toxiques. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui était désigné ce dimanche pour succéder à son père tué au premier jour de la guerre, lui n'est toujours pas apparu publiquement. Et pendant ce temps, au niveau diplomatique, on apprenait que l'Espagne mettait fin aux fonctions de son ambassadrice en Israël. C'est Ana Maria Salomon Pérez, qui est donc de retour dans son pays d'origine. Cela a été officialisé par un décret royal ce mardi, un nouveau signe de la tension entre les deux pays. Le gouvernement socialiste espagnol mené par Pedro Sanchez obtenait donc mardi la cessation des fonctions de son ambassadrice à Tel Aviv. Selon l'agence Reuters, c'est un retrait diplomatique qui se veut définitif. En septembre 2025, Madrid avait déjà rappelé sa diplomate, une décision qui était alors temporaire et qui faisait suite à des échanges houleux avec Israël, suite à l'annonce par le gouvernement espagnol de nouvelles mesures visant à mettre un terme au génocide à Gaza. Alors si le gouvernement espagnol devait à nouveau être représenté en Israël, il devrait dans un premier temps nommer un nouveau diplomate à ce poste, qui aurait alors à présenter ses lettres de créance aux autorités de l'État hébreu. Du côté israélien, il n'y a pas non plus d'ambassadeur en Espagne, et ce depuis la reconnaissance de l'État de Palestine par le gouvernement espagnol, c'était en 2024. Pedro Sanchez, à la tête du pouvoir en Espagne, est l'une des voix européennes les plus critiques envers le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et ce depuis les représailles qui sont menées contre la bande de Gaza, en réponse à l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a d'ailleurs déjà qualifié Pedro Sanchez d'antisémite et de menteur, alors que le Premier ministre espagnol exprimait son admiration pour des manifestants pro-palestiniens qui avaient perturbé la Vuelta cycliste en Espagne, l'équivalent du Tour de France. Le ministère de l'Intérieur d'Espagne a décidé en avril dernier de résilier un contrat d'achat de munitions à une entreprise israélienne, donc un contrat d'armement, et ce en partie sous la pression de la formation d'extrême gauche Soumar, qui est partenaire gouvernemental des socialistes. Enfin, dans les autres petits accrochages, à la mi-septembre, Madrid avait annulé un contrat de près de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne dans la foulée de l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël. Après donc avoir été en première ligne en Europe face à la politique d'Israël à Gaza, l'Espagne faisait récemment réentendre sa voix et condamnait sans nuance les frappes américaines et israéliennes en Iran. Le gouvernement Sanchez est donc allé plus loin en refusant aux États-Unis l'accès. Le gouvernement Sanchez est même allé plus loin en refusant aux États-Unis l'accès à deux de ses bases militaires en Andalousie. Selon Madrid, l'intervention militaire américaine est non justifiée, dangereuse et non conforme à la charte des États-Unis, des Nations Unies.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein.
Des nouvelles du monde.
On va aller essayer de répondre à cette question avec les colonnes Check News de Libération. Check News, c'est là où on vérifie justement les choses qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux. La question est Alice Cordier, donc à la tête de Nemesis, fait-elle un signe néo-nazi sur une photo datant de 2022 ? Une curieuse photographie fait en effet le tour des réseaux sociaux depuis ce mardi. On y voit donc Alice Cordier, la jeune femme chef du groupuscule d'extrême droite Nemesis, qui se dit féministe. Elle est en compagnie d'un militant néo-nazi dont le visage est flouté dans un bar. Ils semblent attablés et miment chacun la lettre S en forme d'éclair avec leurs doigts. Un signe des mains. Ce qui donne au SS une référence à la Schutzstaffel, qui était la principale organisation sous le Troisième Reich, à savoir une milice criminelle d'élite directement sous les ordres d'Hitler. Donc Alice Cordier, du collectif Nemesis à l'ancienne, de Bretagne à Lyon, SS partout. Ça, c'est le message qui a été publié sur TikTok et sur X par Kenneth Ukraine, donc l'autre personne sur la photo. C'est son pseudo, c'est un néo-nazi français engagé auprès des forces ukrainiennes. Donc il est sur cette photo avec la fondatrice de Nemesis. Ils font tous les deux ce signe en forme de S avec les mains. Et il y a une autre image d'ailleurs dans sa publication, barrée du texte « Skull Shooters », qui montre un autre homme faisant le même signe devant un soleil noir. Là, on est dans les symboles du mysticisme nazi. C'est le journaliste Ricardo Parera, spécialiste de l'extrême droite et notamment de son iconographie, qui avait identifié derrière ce conte, donc celui de Kenneth Ukraine, un néo-nazi qui s'appelle Gwendal Delange, un ancien du groupe de Lion Populaire, le groupe violent Lion Populaire, qui est aujourd'hui combattant en Ukraine, donc dans le fameux bataillon Azov. Alors Alice Cordier, prise donc la main dans le sac avec cette photo, elle tente une réponse pour le moins surprenante sur X. Elle dit ceci, « On peut s'arrêter avec la police des doigts, cette obsession de l'extrême-gauche pour le nazisme commence à devenir suspecte. Comme mes joues en attestent, je suis un bébé dans un bar de surfeurs et un inconnu me montre le geste d'un groupe de rap. » Alors l'inconnu est visiblement quelqu'un d'assez élevé dans le milieu des néo-nazis, ce serait étonnant qu'il se soit rencontré par hasard dans ce bar de surfeurs, et elle prétend que c'est le geste d'un groupe de rap. Alors on se demande quel groupe de rap pourrait utiliser le logo SS comme symbole. C'est un groupe qui s'appelle L'Usine avec un Z et qui est visiblement, lui par contre, ne fait pas semblant d'avoir des idées néo-nazis puisqu'il assume et il a d'ailleurs redit sur les réseaux sociaux récemment. En tout cas, tous ces faits ont été portés à la connaissance notamment de plusieurs députés insoumis qui se sont empressés de réaliser un signalement auprès de la procureure de la République au titre de l'article 40 pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bon, voilà un petit peu ce qui se passe du côté de Némésis. Hein. Tout ça fait évidemment suite au remous de l'affaire de la mort de Quentin Derenck. Mais le problème, c'est que cette fameuse Alice Cordier impose quand même ses idées à toute la population française, grâce notamment à sa présence forte sur les médias dominants. Il l'invite quasiment chaque semaine en prime time, alors que Némésis, son groupuscule, ne représente absolument rien en termes d'effectifs. Et surtout, n'a jamais eu la moindre crédibilité dans les luttes féministes desquelles elle se fait régulièrement dégager. Plus grave encore, hein, cette Alice Cordier bénéficie aussi de soutien au pouvoir. Elle avait par exemple pris la pause avec Gérald Darmanin en 2023 à la braderie de Lille. Puis elle avait dit que le ministre ne la connaissait pas, hein, pour dégonfler la polémique. Visiblement, elle ne fait que rencontrer des inconnus qui sont plutôt connus. On peut aussi parler de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui saluait en janvier 2025 le combat du groupe Némésis. Et c'était un discours sur l'insécurité au Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il s'était d'ailleurs adressé personnellement à Alice Cordier en disant « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche ». Bon, face à la polémique de cette photo, hein, dans la suite, je vous le disais, des remous de l'affaire Quentin Derenck, qui essaie quand même de montrer que celui-ci est mort dans une rixe et qu'a priori, ils étaient venus chercher la bagarre. Elle, dans le même temps, a déploré la tournure que prenait cette polémique et a annoncé avoir, à travers son avocat, déposé 33 plaintes pour injure publique, 50 pour diffamation et 37 pour incitation à la violence. Jean-Luc Mélenchon, Thomas Porte, Paul Vanier ou Emma Fourreau sont concernés donc par ces plaintes.
Je fais what ? D'où ? Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
On part maintenant... on était pas très loin de Lyon, donc on reste. On va aller dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et s'intéresser à M. Laurent Wauquiez. Il y a deux jours, donc le 10 mars de cette année, le tribunal administratif de Lyon rendait sa décision dans une affaire relative à la communication des notes de frais, donc de Laurent Wauquiez. La juridiction a donc oblige la région Auvergne-Rhône-Alpes de transmettre à l'association Anticor les documents demandés. C'est donc une décision et une victoire pour Anticor, pour la transparence de l'action publique et pour le droit des citoyens à accéder aux documents administratifs. Cette affaire a commencé en juin 2024. Donc l'association Anticor, hein, qui lutte contre la corruption, notamment au sein du gouvernement, adresse un courrier à Laurent Wauquiez, qui était donc président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle lui demande de communiquer ses notes de frais pour les années 2021, 2022 et 2023. La demande portait notamment sur des frais de séjour, de déplacement et de restauration, avec aussi, il faut donner le nom des invités à chaque fois. Les frais de représentation, donc ça c'est quand on s'achète par exemple des costards aux frais de la princesse, des frais de mission et d'exécution de mandats spéciaux, donc en gros tout ce qu'il a dépensé et l'ensemble des reçus, justificatifs et factures associées à ces dépenses. Ces documents, normalement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, puisque le code des relations entre le public et l'administration, eh bien justement, le stipule. À deux reprises, pourtant, Anticor s'est heurté au refus de la région Auvergne-Rhône-Alpes de les communiquer, donc ces fameuses notes de frais, une première fois suite à leur demande initiale de l'association, et une deuxième fois alors qu'Anticor avait justement saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Celle-ci avait répondu favorablement à la demande, mais la région n'a toujours pas donné. Donc face à ce silence persistant, l'association saisissait le tribunal administratif de Lyon en décembre 2024. Il aura fallu attendre jusqu'à ce mois de mars pour qu'une décision donc, leur donne raison et ordonne à la région de communiquer les documents. Voilà, d'après des gens qui sont un petit peu sur le dossier, Vauquier, qui fait la morale aux plus pauvres pour économiser de l'argent public, aurait dépensé en 2 ans environ 123 000 euros en repas et en restaurant uniquement.
Allez, rembolle tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Maintenant, on part à l'Europe, où ce lundi, donc ce 9 mars, les eurodéputés de la Commission des libertés civiles approuvait le règlement Retour. C'est le nom de ce règlement qui s'appelle Retour, avec 41 voix pour, 32 contre et une abstention. Ce règlement Retour, il inquiète beaucoup les défenseurs des droits, notamment des demandeurs d'asile, puisque justement il encadre les expulsions des personnes en séjour irrégulier. Ce vote, au Parlement européen, a été le théâtre d'un retournement de situation que Mediapart a même qualifié de putsch. En effet, le texte initial qui était porté par le rapporteur libéral Malik Azmani a été écarté au profit d'un autre texte, un compromis de dernière minute qui a été présenté par la droite et François-Xavier Bellamy et adopté finalement grâce au soutien de l'extrême droite, notamment Jordan Bardella qui a changé d'avis et a apporté donc toutes ses voix à cette initiative. Pour Mediapart, la fusion des droites européennes a connu un sacré coup d'accélérateur avec ce vote. Même constat pour le média suisse Blick, qui estime lui que le centre de gravité politique de l'Union européenne a glissé à droite, poussant ses dirigeants à serrer la vis sur l'immigration. Car oui, c'est de ça qu'il est question. Un net durcissement de la politique migratoire de l'UE et la possibilité d'envoyer des migrants vers des plateformes de retour, à savoir des centres de rétention qui sont situés dans des pays en dehors de l'Union européenne. Une externalisation donc des centres de rétention administrative. C'est en gros, en tout cas, la teneur de ce texte qui a été donc, je le rappelle, validé ce lundi par les eurodéputés. Le chiffre qui a mené à la création de cette proposition, notamment par les défenseurs de ce fameux règlement retour, le chiffre est connu. Ils expliquent qu'actuellement, sur l'ensemble des décisions de retour, donc c'est ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire qui sont émises en Europe, seuls 20% sont mises en œuvre effectivement. Ce taux stagne depuis des années et il plonge à 9,6% pour la France. Pour tenter d'y remédier, donc, le règlement retour a été proposé par la Commission européenne en mars dernier, donc en 2025, puis approuvé par les États membres au mois de décembre. Le texte est censé permettre aux pays de l'Union européenne donc, de renvoyer les migrants en situation irrégulière vers des pays tiers, donc pas leur pays où ils demandent l'asile et pas leur pays d'origine, donc sans lien avec leur pays d'origine, à condition que l'UE ait conclu des accords bilatéraux avec un État en dehors de l'Union pour construire sur son territoire des centres de détention. Par exemple, pour la France, ça pourrait être le Maroc, qui fait déjà un petit peu le job de première barrière contre les migrants qui arrivent par le Sahara. Ce dispositif retour, en plus de tout cela, doit aussi faire sauter plusieurs verrous procéduraux. Par exemple, fini l'effet suspensif automatique et généralisé pour tous les recours. Ça serait une mesure qui permet souvent de multiplier des procédures pour gagner du temps et empêcher des expulsions, nous expliquent donc les défenseurs du texte. Et de plus, si des personnes refusent de quitter le territoire européen, elles risquent d'être détenues dans des centres de rétention, et ce jusqu'à 24 mois. Voilà donc pour les nouveautés. Alors ces fameux centres de retour dans d'autres pays qui sont souhaités par plusieurs États membres ont vocation à dissuader les migrants de refuser tout retour dans leur pays d'origine, explique le journal. Un noyau de 5 pays, donc l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, a lancé ses discussions sur ce qu'on appelle les retours. Et nous sommes encore dans une phase exploratoire qui implique des discussions avec des pays en dehors de l'Europe, expliquait le vice-premier ministre néerlandais, cité par Le Monde. Alors que l'Italie dispose déjà de centres qui sont installés en Albanie, où 90 personnes attendent leur sort, d'autres pays réfléchissent à l'établissement de tels centres, comme la Finlande ou la Suède, et tout cela, bien évidemment, aux grandes dames des ONG qui travaillent avec ces migrants. Pas de dignité humaine, pas de liberté, pas d'égalité, pas d'état de droit pour les personnes envoyées dans les centres de retour. Juste un avenir incertain dans un pays inconnu. S'alarmait par exemple l'eurodéputé socialiste Muriel Laurent. Enfin, une autre dernière disposition de ce dispositif retour inquiète les critiques de ce texte qui a été approuvé ce lundi. Celle-ci permettrait aux autorités de pouvoir fouiller le lieu de résidence ou bien d'autres lieux pertinents dans lesquels pourrait se trouver un ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Donc si vous êtes par exemple sous OQTF ou que vos droits ont été rejetés, on peut vous chercher. Pour Sarah Chander, directrice d'une organisation qui s'appelle Equinox Initiative for Racial Justice, elle était interrogée dans les colonnes du Monde. L'ironie de la situation actuelle, c'est que l'Union européenne met discrètement en place un cadre d'expulsion similaire à celui de l'ICE aux États-Unis. Vous savez, le service américain de l'immigration et des douanes qui se sent un petit peu pousser des ailes et qui tire aussi sur des citoyens dans la rue. Ce 14 mars, je vous rappelle qu'à l'appel de la Marche des Solidarités, un réseau de collectifs et d'associations, des insoumis ou du syndicat solidaire, des manifestations auront lieu un peu partout dans le pays pour protester contre le racisme, la réaction d'extrême droite et les violences d'État et manifester aussi son soutien à toutes les personnes avec ou sans papier. Pour ce qui est de ce texte retour, il a été donc validé, je vous le disais, lundi, mais il doit encore être adopté par l'ensemble des eurodéputés en séance plénière avant de faire l'objet de négociations avec chaque État membre.
C'était vraiment très intéressant.
On parle un petit peu environnement santé maintenant avec le retour des beaux jours et ce printemps pluvieux. La végétation devrait bien reprendre avec le soleil et attention donc aux tiques. On vient d'apprendre dans cette nouvelle étude que 15%, même 15,4% exactement, de ces tiques seraient porteuses de la maladie de Lyme. Le printemps arrive donc avec lui le retour des tiques. Ces parasites qui se nourrissent du sang des humains et des animaux sont donc vecteurs de la maladie de Lyme. Elle est déclenchée par une bactérie, la Borrelia, qui est présente dans la salive des tiques infectées. Elle se manifeste d'abord, je vous le rappelle, par un rash, une plaque rouge inflammatoire qui peut arriver, et une poussée de fièvre. Si on agit rapidement en détectant, ou en tout cas en ayant une menace de piqûre de tique, une cure d'antibiotiques préventive vient à bout des symptômes. Sinon, une forme chronique peut s'installer avec des troubles neurologiques ou bien musculo-squelettiques. Alors bien sûr, toutes les tiques ne sont pas porteuses. Je vous ai dit 15% oui, et le reste non. Mais le 10 mars, donc l'INRAE et ses partenaires ont publié dans une revue qui parle justement de ça, les résultats très attendus du programme participatif CITIC. C'était une expérience de recherche participative donc, pour essayer d'évaluer le niveau de contamination des tiques en France. 26 000 personnes quand même s'y sont adonnées entre 2017 et 2019 et les résultats viennent juste de tomber. Donc sur les 2009 tiques qui ont piqué des humains en France, 15,4% portaient cette bactérie à l'origine et 27% au moins un agent pathogène parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être véhiculées par les tiques. Comme par exemple l'anaplasmose granulocytaire ou bien la neuerlichiose. Je ne suis pas sûr de la prononciation, neuerlichiose. Cette étude présente d'ailleurs les résultats sous la forme d'une cartographie des espèces de tiques et des agents pathogènes qu'elles transmettent, parce que tout n'est pas égal sur le territoire. Et les régions les plus à risque en France sont le centre, le sud-ouest et le nord-est de la France, avec ses forêts bien vertes. Mais il y en a aussi pas mal chez nous, donc si vous allez vous balader notamment dans les fougères, n'oubliez pas de faire la petite inspection réglementaire à votre retour.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on boucle avec une autre nouvelle sur la faune qui nous entoure, et notamment ces espèces qu'on dit nuisibles. Et donc, une fois qu'elles ont ce tampon sur le dos, on est censé pouvoir les tuer facilement. D'ailleurs, on appelle ça destruction dans le cadre de la chasse. Alors l'élimination donc, de ces espèces dites nuisibles serait totalement inefficace et très coûteuse d'après une étude qui vient de sortir. C'est une étude faite par des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle qui a été publiée ce 9 mars dans la revue Biological Conservation. Je vous donne la conclusion, noir sur blanc, il n'existe aucune preuve d'un quelconque bénéfice lié à l'effort de contrôle des espèces considérées comme nuisibles en France. Donc un truc assez radical, ça ne sert à rien. En France, il faut savoir que chaque année, 1,7 million de renards de mustélidés, donc ça c'est tout ce qui va être belette, fouine, etc., et des corvidés, pies, corneilles, geais, sont abattus chaque année, avec pour volonté affichée de réduire des risques sanitaires ou des pertes économiques qui sont liées, par exemple, lorsque ceux-ci endommagent des cultures ou des élevages. Les chercheurs du muséum donc, ont évalué économiquement et écologiquement les conséquences de ce contrôle sur les populations. Ils ont travaillé sur une durée de 7 ans, de 2015 à 2022. L'étude, elle s'est focalisée sur 10 de ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Hein, c'est le SESOD, elles ont un petit sigle. On a par exemple dedans le renard roux, la fouine, la martre des pins, la corneille noire ou encore le jet des chênes. Il y en a pas mal qu'on voit régulièrement d'ailleurs dans nos campagnes. Tous les 3 ans, c'est un décret national qui précise pour chaque département donc les efforts de contrôle, ça veut dire le nombre de bêtes qu'il va falloir tuer, qui doivent être fournis pour chaque espèce localement et sur les 3 années à venir. Et ce sont après ensuite les fédérations de chasseurs qui sont eh bien justement chargées en partie de participer à cet effort. Les données qui permettent normalement de mieux comprendre la dynamique entre les dommages et le quota d'abattage de ces espèces nuisibles posent pourtant un gros problème dès le départ, puisque les dégâts, ce sont les agriculteurs et les particuliers qui peuvent déclarer le type de dégâts qu'ils ont subis, et ils peuvent proposer eux-mêmes une estimation du coût financier et de l'espèce qu'ils pensent être responsable. Donc il n'y a pas d'expert qui est envoyé sur place, on leur laisse totale liberté sur la déclaration. Et c'est là-dessus que se base ensuite la politique. Donc cette méthode de déclaration n'est pas standardisée et la déposition ne fait l'objet d'aucun contrôle organisé. Mais pourtant, ces informations vont servir ensuite pour mettre en place des schémas pour les arrêter, surtout nationaux, concernant les espèces nuisibles. Les auteurs de la nouvelle étude démontrent que la politique actuelle est donc totalement inefficace, voire contre-productive, et pour un coût exorbitant. Selon leurs estimations, le coût nécessaire pour la gestion de ces espèces serait compris entre 103 et 123 millions d'euros chaque année. Bon, faut quand même, c'est un coût, mais c'est pas de l'argent forcément qui sort directement de la poche, mais ça va être aussi, par exemple, du temps bénévole par les fédérations de chasseurs. Bref, en tout cas, ils estiment l'effort nécessaire environ 100 ou 120 millions d'euros chaque année. Et le coût des dommages occasionnés par ces espèces, lui, en revanche, il est entre 8 et 23 millions d'euros par année, ce qui est beaucoup en dessous de ce que ça coûte, vous aurez compris. Donc, même si on prend la fourchette la plus basse, on semble qu'il n'y ait pas un grand intérêt, en tout cas financier, si on cherche à mettre de la valeur sur ces choses. Et en plus, cette fameuse fait que les décrets, des fois, durent 3 ans, la raison pour laquelle certaines espèces sont ciblées sur 3 ans, ça, c'est une question sur laquelle ils n'ont pas compris pourquoi ça se passait comme ça. L'étude donc a par exemple remarqué que chez les oiseaux, eh bien, l'abattage, donc le fait d'en tuer une partie, ne réduisait pas la taille des populations nicheuses. Puisque oui, il y a des phénomènes dynamiques dans les espèces animales et végétales d'ailleurs, qui font que des fois, quand vous en supprimez une partie, le reste de la population se remultiplie très très vite. Ça s'appelle des équilibres, quoi. Alors, d'ailleurs aussi, l'augmentation des abattages ne diminue pas ensuite le nombre de dommages constatés par les agriculteurs et les particuliers. Donc en gros, on tue des bêtes, mais il y a autant de dommages. Ça ressemble plus à de la vengeance qu'autre chose. Et donc, les coûts qui sont occasionnés par ces dégâts ne baissent pas. A l'inverse, d'ailleurs, dans les cas où il n'y a pas d'abattage, donc où il n'y aurait pas de politique, on ne voit pas d'augmentation des dommages ensuite. Donc c'est vraiment zéro corrélation pour les scientifiques. C'est ça le message principal à retenir. Alors, ce qu'il propose, c'est de repenser totalement la gestion de ces espèces qui peuvent causer des dommages pour remplacer une méthode donc, qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ils expliquent que puisque l'abattage sélectif est inefficace, économiquement injustifiable et éthiquement discutable, ils recommandent de concentrer d'urgence des efforts sur la réduction et la prévention des dommages, ce qui ne requiert pas de mesures létales. On n'est pas obligé de tuer des animaux. Par exemple, le professeur Frédéric Giguet, co-auteur de cette étude, précise qu'il faudrait par exemple protéger les semis et les cultures, parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui viennent piquer les graines dans les champs, avec des techniques répulsives d'enrobage de ces semences. Problème aujourd'hui, le produit existe, mais il est très toxique. Une autre solution, mettre au point des systèmes d'effarouchement des oiseaux qui seraient plus efficaces que ceux déjà existants. Ceux qui existent aujourd'hui, des bruits de coups de feu, d'épouvantails qui se gonflent, etc., se déclenchent en continu. Ce qui fait que des oiseaux intelligents, et c'est le cas des corvidés, s'y habituent et n'en ont plus peur du tout. Bref, ils expliquent d'autres solutions techniques. Et enfin, l'abattage de ces espèces pose un autre problème de taille, hein, finit cet article que j'ai trouvé sur Science et Avenir, puisque tuer tous ces animaux réduit à néant les rôles écosystémiques qu'ils jouent, justement. Et ça, ce sont des avantages aussi, souvent, dont profite l'humanité. Par exemple, explique le professeur Giguet, le jet des chênes, qu'on a beaucoup ici, fait des réserves de glands en automne, mais ensuite il oublie plusieurs de ses cachettes. Et de cette façon, les chênes sont semés dans toute la forêt. Ça permet la régénération forestière. Si on parle du renard, celui-ci mange des campagnols, qui font partie du cycle de vie des tiques porteuses de la maladie de Lyme. Vous voyez la boucle. Et donc, plus il y a de renards, et moins il y a de maladies. C'est assez mathématique. Si on parle des corneilles, les corvidés, ce sont des charognards qui permettent de se débarrasser des animaux morts en ville ou dans les campagnes. Enfin voilà, le professeur conclut, ces espèces sont indigènes, donc elles ont leur place dans notre écosystème. On pourrait, dit-il, tout aussi bien chiffrer les services qu'elles rendent, et oui, plutôt que de juste compter avec les dommages.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, n'en plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Et voilà, chers amis, qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça qu'on arrête les nouvelles du monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités de notre monde en folie. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous retrouve juste après le générique pour annoncer l'après-midi sur les ondes de la radio.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?